Radio Campus et les radios partenaires présentent la Nuit européenne des chercheurs. Une invitation à partager une soirée avec des chercheurs et des chercheuses dans des centaines de villes d'Europe, dont 16 en France.
La Nuit européenne des chercheurs, c'est aussi à Saint-Étienne, à la fabuleuse cantine où nous sommes pour ces parcours croisés, trois parcours croisés, et d'ailleurs voici le troisième outil de prévention et leur usage. Et pour participer à ces parcours croisés, à ce parcours croisé, eh bien deux invités. Tout d'abord, Julien Cartier, bienvenue.
Bonsoir.
Alors vous êtes chercheur en santé publique, vous avez des responsabilités au niveau information aussi du département du Centre Lyon-Bérard, de l'information sur les cancers liés à l'environnement. C'est aussi bah, évidemment votre thème de recherche, on va évidemment en parler. Et puis en face de vous, Dimitri Lacroix, bienvenue.
Bienvenue, merci beaucoup.
Vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales. Vous êtes co-directeur du département recherche du MJ Lab, le laboratoire de recherche de MJNov, une entreprise qui œuvre aussi pour un mieux-être, pour la santé également. Bref, nous allons donc échanger sur ces thématiques, du coup, de la santé en général et de d'environnement aussi, on va s'en rendre compte. Tout d'abord, Julien Cartier, vous êtes docteur en santé publique, notamment au centre Lyon-Bérard, Léon Bérard à Lyon, voilà, c'est dans l'ordre.
C'est difficile à dire.
On y arrive. on y arrive. Peut-être un petit mot sur sur le centre Léon Bérard.
Oui, tout à fait. Alors, le centre Léon Bérard, c'est un centre régional de lutte contre le cancer, hein, qui a des missions de soins, d'enseignement et de recherche, qui va fêter l'année prochaine ses 100 ans. C'est un lieu dédié à la recherche et à la prise en charge des patients atteints de cancer et leurs proches, dans toutes les dimensions de la prise en charge et de l'accompagnement, jusqu'à la prévention, dépistage, diagnostic, traitement, surveillance et après-cancer pour le retour à la vie normale.
MJNov, c'est une entreprise qui a un département recherche, donc on imagine une entreprise qui reste à l'affût de la recherche, de un souci de progresser, j'imagine, Dimitri. En deux mots, MJNov, qu'est-ce que c'est ?
Oui, tout à fait. Et en fait, la création du département recherche au niveau de MJNov était de pouvoir accompagner les établissements en fait, à l'appropriation d'objets techniques numériques. MJNov, en fait, distribue la Tower Tafel, qui est un système de projection lumineuse sur table qui va permettre de recréer du lien social entre des personnes qui ont des troubles cognitifs, type maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, entre elles, avec les aidants professionnels ou non professionnels. Et l'objectif vraiment du département recherche, c'était de se dire, dès le départ à l'origine de MJNov, c'est que c'est un projet, c'est de recréer du lien, et c'est tout l'environnement, toute l'écologie des interactions qui vont se passer dans un lieu de vie qu'on va essayer de recréer. Donc c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs à ce niveau-là.
Lieu de vie, il en est question aussi, Julien Cartier. Lieu de vie au sens environnement, lieu où on habite, lieu où on travaille. Puisque vous travaillez donc sur le cancer lié à l'environnement ou les cancers liés à l'environnement, c'est finalement une préoccupation très prégnante, l'environnement. Et on fait le lien maintenant plus facilement entre l'environnement et les cancers.
Alors c'est vrai que c'est une thématique qui émerge depuis maintenant voilà, une quinzaine d'années, 15-20 ans. Il y a beaucoup d'études qui sont maintenant menées sur les liens entre cancer et environnement, qui a amené le Centre Léon Bérard en 2009 à créer un département prévention cancer environnement dédié. Et donc l'environnement est compris, on pourrait dire c'est tout ce qui n'est pas génétique. Donc c'est effectivement l'eau que l'on boit, l'air que l'on respire à l'intérieur, à l'extérieur, les substances pour lesquelles on est exposé au travail tout au long de la vie. Et on a de plus en plus d'études qui ont identifié des liens avérés ou suspectés entre des risques de cancer et ces facteurs ou ces agents environnementaux. Donc on a à Lyon aussi le Centre international de recherche sur le cancer qui, depuis plus de 50 ans, a permis d'identifier certaines substances déjà cancérogènes avérées pour l'homme et puis d'autres substances pour lesquelles il y a encore des recherches à mener et pour lesquelles on suspecte des choses, mais qui n'empêchent pas certains États à mettre en place des mesures de prévention et de précaution pour éviter ces risques.
Rechercher et travailler à l'international, c'est évidemment ensemble on est plus fort, et c'est aussi peut-être de bénéficier d'approches peut-être différentes, parce que dans différents endroits du monde on a forcément différentes cultures, donc différentes approches de la recherche.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la recherche sur les cancers et l'environnement, ça mobilise de nombreuses disciplines, de nombreuses compétences, de nombreuses méthodologies au service de la caractérisation d'un risque. Donc on va s'intéresser bon, bien sûr à des recherches en laboratoire, des recherches d'expérimentation animale, mais aussi des études épidémiologiques pour suivre des populations qui peuvent être plus ou moins à risque. Et c'est de mobiliser de la modélisation, de la géographie de la santé, et bien sûr des sciences humaines et sociales. La santé publique, je considère que c'est aussi une science humaine et sociale pour lesquelles on doit aussi trouver dans l'organisation des soins, l'organisation des parcours, et puis l'information aussi, comment on peut mieux répondre aux questions que les personnes se posent et aux conseils qu'on pourrait donner pour éviter les risques.
Alors Dimitri de la Croix, parlez-nous de cette Tower Tafel. C'est une table magique, entre guillemets, mais quand j'ai dit ça, en fait, j'ai un peu tout dit, rien dit. Hein ?
Alors oui, tout à fait, la Tower Tafel, alors déjà pour le terme, en effet, ça veut dire table magique. Ça a été en fait fait par Esther Le Riche aux Pays-Bas lors d'une thèse. Elle est designeuse et elle avait rencontré un neuropsychologue et c'était par rapport à des personnes qui ont des troubles cognitifs très sévères, donc typiquement l'apathie où les personnes ne vont pas bouger du tout de la journée, c'est de retrouver en fait une stimulation qui allait permettre de retrouver du lien, une stimulation à la fois physique, sociale, émotionnelle, pour des gens en fait avec qui la relation elle avait été coupée. Donc quand on parlait tout à l'heure d'environnement, bah, cette relation à l'autre, cette relation même à soi-même, cette relation à l'environnement. Et par contre, on a des contraintes qui étaient très fortes, c'est-à-dire que quand on donne trop de règles, elles allaient être coupées, des difficultés aussi de mouvement. Donc en fait, la Tower Tafel, elle va s'inscrire dans leur lieu de vie. Ça va être simple, ça va être projeté sur une table de l'établissement. On va pouvoir faire les mouvements qu'on veut, il n'y a pas de règles, pas de manière de jouer. On va pouvoir jouer d'une manière collective en gardant un petit peu son quant à soi, peu importe mes troubles, peu importe mes envies, je vais pouvoir trouver ma place avec les autres en partageant des moments, entre guillemets, de plaisir et de bonheur. Et c'est dans ce sens-là où on travaille, nous, sur ce côté, sur cet aspect un peu de prévention, de maintenir le lien social. En fait, nous sommes des êtres de relation, et une fois que la relation elle est coupée, ben, on n'est plus vraiment un sujet. Peu importe ce qui se passe, on va essayer de travailler à ce niveau-là, et l'objet technique numérique, en l'occurrence la Tower Tafel, va permettre cette voie-là, cette ouverture d'être ensemble.
Donc un outil qui favorise finalement le lien entre le soignant et le soigné, et peut-être aussi le soigné et les proches.
Exactement. C'est de se dire, à un moment donné, on n'a peut-être plus de voix pour communiquer, pour partager un moment. Ben là, l'objet numérique va pouvoir, entre guillemets, cristalliser, être un petit peu un attracteur de relations, et chacun va prendre sa place d'une manière très simple. Les soignants vont peut-être avoir des contraintes de temps, de mise en place. Là, c'est un outil qui est facile à mettre en place. C'est important, entre guillemets, pour la mise en pratique. C'est vraiment au service du soin, au service en fait du care, du prendre soin de l'autre. Pareil pour les personnes âgées, elles vont pas être dans le refus ou dans la non-compréhension, mais ça va être une dynamique qui va être collective, simple. Et pareil pour la famille qui va peut-être moins voir son proche, parce que c'est compliqué si la personne a des troubles cognitifs, si la personne ne reconnaît peut-être pas ses proches. Ben là, autour d'un moment de jeu, chacun reprend un petit peu sa place de partage.
Donc, ce sera évidemment aux gens qui ont des troubles cognitifs. Alors, notamment chez les adultes, on pense aux malades d'Alzheimer ou des maladies apparentées, ou chez les adultes qui ont des troubles peut-être mentaux ou maladies aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux, finalement, il y a deux formules, entre guillemets.
Voilà, tout à fait. C'est qu'en fait, chaque jeu, parce que ça va être en fait des jeux pour être ensemble, sont co-développés avec les personnes elles-mêmes, avec les professionnels. Donc le système est le même, c'est toujours une projection qu'on peut mettre sur une table ou au sol pour qu'on soit aussi sur une activité physique si on le souhaite, adaptée. Par contre, les expériences de jeu vont être différentes et personnalisées. Parce qu'en effet, selon les troubles que j'ai, selon l'âge que j'ai, selon aussi les appétences, il faut que ce soit aussi personnalisé. Donc en effet, on va s'adresser à deux grands publics, comme vous l'avez dit, donc soit les EHPAD, les hôpitaux, pour des personnes plutôt âgées avec des troubles cognitifs, mais aussi à une population adulte, qui peut être par exemple sur des foyers d'accueil médicalisés ou aussi des personnes qui travaillent encore type ESAT. Donc là, on a d'autres objectifs pour aller s'ouvrir aussi vers l'extérieur. C'est toujours une ouverture en fait vers l'autre.
Alors, ouverture sur l'extérieur, notre environnement, Julien Cartier, est-ce à dire que finalement, dès qu'on ouvre la fenêtre, dès qu'on ouvre sa porte, dès qu'on est dehors ou qu'on reste chez soi, on respire de l'air, des substances pas bonnes qui pourraient à terme développer ou contribuer au fait qu'on développe des cancers?
Alors c'est vrai que parfois l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc effectivement, on parle de la pollution atmosphérique qui a été classée un cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Donc les particules fines, aussi les gaz d'échappement des moteurs diesel. Donc on sait que ça explose beaucoup. Mais effectivement, à l'intérieur, il peut y avoir aussi d'autres agents cancérogènes. Je pense notamment au radon, donc ce gaz radioactif d'origine naturelle qui va peut-être se fixer un petit peu plus préférentiellement sur les rez-de-chaussée de certaines maisons qui habitent dans des régions où il y a des risques radon. Il peut y avoir des pesticides, parfois là où on n'y pense pas. Hein, je pense aux colis antipuces du chat, du chien. Il peut y avoir des bombes aérosols anti-moustiques qui vont relarguer un certain nombre de composants. Il peut y avoir certains meubles, certaines peintures. Oui, effectivement, il y a des conseils qu'on peut donner pour essayer de rendre son air intérieur un petit peu plus sain, notamment par l'aération régulière de l'habitat.
Alors évidemment, on traite du mieux qu'il est possible hein, les différents cancers, mais finalement, pour le moment, en tout cas, le plus efficace, ça reste la prévention.
Oui, alors la prévention, tout à fait. On a une bonne nouvelle qu'on essaie de diffuser, c'est que 40% des cancers sont évitables grâce à la prévention. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette prévention, c'est déjà d'identifier quels moyens on a d'action soi-même pour réduire certains risques de cancer. Et le premier contributeur, c'est le tabac. 20% des cancers sont liés au tabac et 8% sont liés à l'alcool. Donc déjà, sur ces deux facteurs de risque sur lesquels on peut agir, c'est-à-dire d'éviter de fumer et de boire, on réduit déjà pas mal de cancers. À cela s'ajoute l'alimentation et la lutte contre la sédentarité qui joue, on parlait d'activité physique et de mobilisation, d'activité physique adaptée. Et bien effectivement, on sait que là aussi, on réduit un certain nombre de cancers. Et puis dans la prévention, il y a aussi le dépistage précoce de certains cancers et la vaccination. Donc ce sont des leviers de prévention très importants qu'on oublie. Il y a des vaccins, certains vaccins qui vont réduire des risques de cancer, hépatite B et papillomavirus. Et puis il y a des dépistages organisés, cancer du col de l'utérus pour la femme à partir de 25 ans, et puis le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal dès 50 ans. Donc là, on a des moyens de dépistage organisés de cancer qui sont à vraiment garder en tête et à utiliser à volonté.
Alors, il y a peut-être une forme d'inégalité en termes de territoire. Il y a peut-être des lieux où il fait bon vivre, ou en tout cas mieux vivre, entre guillemets. Et parfois, c'est lié aussi à des moyens économiques. J'imagine que si on habite en rez-de-chaussée, en centre-ville, sur une rue extrêmement passante, on risque d'avoir un logement plus pollué que si on a les moyens d'habiter plus loin, au milieu des bois.
Oui, tout à fait. On parle des déterminants de la santé. Et dans ces déterminants de la santé, il y a les facteurs socio-économiques, bien sûr son niveau d'éducation, son lieu de résidence. Et oui, vous avez raison, on a un certain nombre d'inégalités environnementales qui peuvent venir s'ajouter à des inégalités de santé. Et effectivement, il y a des régions ou il y a aussi des lieux de travail, des métiers hein, qui vont aussi exposer davantage à des agents cancérogènes. Et il y a des lieux de vie qui peuvent aussi exposer. Ouais.
Dimitri Delacroix, sur ces inégalités finalement territoriales, est-ce que c'est aussi le cas avec la Tour Eiffel, parce que vous n'êtes pas encore partout? Et finalement, il faut aussi que les différents établissements se donnent les moyens, se dotent de ces outils. Il faut aussi avoir des moyens humains, parce qu'on a bien compris, ça reste qu'un outil.
Exactement. Alors sur cette vision, on a quand même un partage sur la France assez grand, et on a toujours eu cette politique de dire peu importe si l'établissement est petit ou grand, on souhaite que n'importe quel établissement puisse l'avoir, et en effet il faut pouvoir trouver les fonds. Mais ce qui est important, c'est qu'on propose ce projet-là, et comme vous disiez, on n'est pas du tout dans le remplacement de personnes ou d'humains. Au contraire, comme on le disait tout à l'heure, ça va être plus de relations. Donc entre guillemets, aussi plus de personnes à faciliter. Ça me permet aussi d'avoir une dynamique, c'est-à-dire que si je suis pris ailleurs, bah, l'outil, comme il est facile d'utilisation, il peut être aussi utilisé un petit peu en autonomie ou en animation, mais il va vraiment être au service des professionnels et des équipes pour maintenir ce lien-là. Donc comme vous disiez, il faut vraiment plus de personnes. Et ce que j'entendais aussi dans la prévention, je rejoignais tout à fait cette dynamique-là. Et pour le prendre aussi en prolongement de notre point de vue, c'est se dire que c'est le collectif aussi qui va permettre la prévention. Et c'est pas parce qu'on pense qu'on est tous indépendants parce que tout va bien, mais en fait on est tous dépendants, et tant mieux. Et c'est ce collectif qui prend part, et c'est comment au final on va faire de la prévention ensemble.
Justement, on arrive presque au bout de ce parcours croisé, le troisième, le dernier. Est-ce que justement, Julien, vous avez une question pour Dimitri, ou inversement, Dimitri, une question pour Julien, ou une réflexion, une remarque, l'un et l'autre?
Oui, peut-être sur les outils numériques. Hein. On développe beaucoup en cancérologie d'un certain nombre d'applications, de sites internet. On présente notamment à la Nuit des chercheurs une exposition digitale sur la prévention. On pourrait peut-être utiliser certaines technologies, certaines applications ou certaines méthodologies au service de la prévention des cancers liés à l'environnement. Est-ce que voilà, ça peut être une piste? Parce qu'effectivement, quand nous on parle de prévention des cancers, beaucoup d'informations se croisent avec d'autres pathologies chroniques. On s'adresse à des publics variés, des publics plus ou moins en difficulté, en vulnérabilité. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'adapter certains des outils à nos publics.
Oui, exactement. Et c'est vrai que cette thématique, elle est passionnante, et il faudrait qu'on puisse aussi voilà, créer vraiment des collaborations. Et comme vous disiez, sur certains publics ou sur certaines informations, en effet, je vois que l'outil numérique pourrait être intéressant, encore une fois, pour l'ouverture aux autres. Et c'est se dire, en fait, de passer du stade de la donnée, où en fait, on peut avoir plein de données qu'on ne va pas pouvoir soit croiser, soit par rapport à notre niveau de connaissance sur le domaine, et que ça se transforme en information, et que l'information, elle a un réel impact pour, en effet, cette prévention, et qu'on passe pas à côté de choses essentielles, et qu'en fait on puisse attirer tout le monde en fait au bon endroit, et qu'on puisse vraiment transmettre, garder ce lien là en fait pour la prévention. Et c'est vrai que ce serait passionnant.
Finalement, mieux informer les citoyens que nous sommes sur ces questions de santé.
Voilà, et les engager, comme vous disiez tout à l'heure, dans une dynamique en fait.
Dans une dynamique, dans une intention, exactement. Ce qu'on appelle dans la recherche des intentions de changement de comportement favorable à la santé, d'aller jusqu'au l'adoption hein, de comportements plus favorables à la santé et à l'environnement.
Merci Julien et Dimitri d'être venus à ces micros pour nous parler de ces outils de prévention et leurs usages.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La Nuit européenne des chercheurs